RMC, les grandes gueules.
La cliente, elle a eu un double traumatisme. Un traumatisme en raison d'effets criminels dont elle a subi et un autre traumatisme en raison du lieu. Un établissement public hospitalier, selon le code de la santé publique, tout établissement public de santé a une obligation de surveillance. Aujourd'hui, elle veut découvrir la vérité. Elle veut comprendre ce qui s'est passé.
Et ça s'est passé dans la nuit du 27 au 28 octobre dernier.
L'histoire, elle est dingue. Donc cette jeune femme qu'on va appeler Isabelle, elle a 34 ans, elle passe la soirée dans ce bar connu en bord de Seine à Paris. Elle est victime d'un malaise pendant la soirée. Donc devant l'établissement, elle tombe et sa tête heurte le sol. Elle souffre d'un traumatisme crânien. Elle est secourue par les pompiers qui la conduisent à l'hôpital Cochin où elle est admise dans un box individuel. Alors qu'elle se trouve dans les vapes, c'est son témoignage, elle est soudainement réveillée par la douleur que lui inflige un homme qui est en train de la violer. On est à Cochin, dans le box individuel. Ses cris font fuir l'agresseur qui parvient à quitter l'hôpital mais qui emporte quand même avec lui la carte bancaire de la victime. Le personnel soignant prévient la police et c'est grâce au signalement du suspect que les policiers de la BAC du 14e arrondissement de Paris vont repérer l'homme en question, vont l'arrêter une heure plus tard. Il était en train de faire des achats dans une épicerie avec la carte bleue de la jeune femme. Et on va apprendre que le suspect, en fait, aurait repéré Isabelle dès son malaise devant le bar. D'après des témoins, cet homme rôdait autour de la jeune femme, et en la regardant avec insistance, comme un mort de faim. C'est l'expression qui a été utilisée par les témoins. Donc la jeune femme est conduite à Cochin, et au même endroit, le suspect va simuler un coma éthylique pour pouvoir lui aussi être transporté à Cochin. Il se retrouve donc placé à côté de sa future victime et il commet ce qu'il a commis. Donc il a été placé en garde à vue, et alors là on apprend que c'est un homme sans papier. Il affirme être jordanien. Le problème, c'est que il est connu par la police sous 13 identités différentes. Après avoir été arrêté plusieurs fois pour vol, recel, usage de drogue, il était également suspecté d'avoir violé une mineure en Seine-et-Marne en 2020, mais l'affaire a finalement été classée sans suite. Il était arrivé en France illégalement en 2019. Il avait été soumis deux fois à des ordonnances de quitter le territoire français, mais comme il a plein d'identités, visiblement, ça a été compliqué de faire suivre ses OQTF. Bref. Beaucoup de choses à dire sur cette histoire, elle est assez accablante.
On a une championne là, toutes catégories confondues.
Pardon.
Je disais qu'on avait une championne toutes catégories confondues. Tu vois, je ne suis pas celle qui prône. Mais blague à part, tu vois, au-delà du fait divers, on a beaucoup de faits divers ici, très régulièrement. On fait quoi de mec comme ça? On ne sait pas qui c'est en fait. Tu vois, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas d'où il vient. 13 identités, des dizaines de QTF. Il a déjà été soupçonné d'avoir violé une mineure. Fait. Effectivement, moi je comprends quand les gens après ils disent mais on veut pas de ces gens-là, parce que pour moi l'immigration, tu immigres pas pour venir voler, pour venir violer en fait, tu viens pour travailler au départ. Mais c'est hyper inquiétant, tu vois, de se faire violer de manière générale, et encore plus dans un hôpital, tu vois, le mec il a pisse, il est pas tranquille en fait, tu vois, il a pisse, il simule un malaise, c'est ça que tu me dis.
Ah oui, c'est ça.
Il se fait interner près d'elle, il la viole, et il est tellement abruti qu'en plus il sort de là, il va acheter avec sa carte bleue, il se fait repérer immédiatement. Moi, j'ai pas de solution, mais voilà, juste.
Alors, il faut préciser qu'Isabelle vient de porter plainte pour mise en danger de la vie d'autrui contre X. Elle reproche notamment à l'hôpital Cochin de ne pas assurer la sécurité des patients.
Il faudrait peut-être porter plainte aussi pour le coup contre le ministère de l'Intérieur qui sait pas quoi faire de ces gens qui mettent tout le monde en danger.
C'est pour ça qu'on se demande, est-ce que c'est une succession de fautes de l'État dans cette affaire, quoi, Kevin Bossuet?
Quand Monsieur Dupont-Moretti nous raconte que dans cette société, il n'y a pas d'ensauvagement, là, on est typiquement dans l'ensauvagement. Donc, à un moment, et ce genre de choses, là, c'est hyper médiatisé, mais ça arrive, en fait, tous les jours. C'est ça qui est quand même, si ça arrive très souvent, peut-être
jours.
Pas de manière aussi grandiloquente au niveau des faits, au niveau de l'usurpation d'identité, etc., ou des fausses identités, mais ça arrive quand même tous les jours. Après, il y a le problème quand même de la violence, une violence de plus en plus importante, une violence qui est encore ici gratuite, puisque cette victime n'avait absolument rien fait. Son seul fait, c'est d'être sans doute plutôt jolie et d'être une femme. Et ensuite, un délinquant qui est capable, finalement, de remettre en cause l'autorité de l'État. C'est-à-dire que l'État est incapable de gérer ce genre d'individu. On est la sixième ou septième puissance du monde et on est incapable, en effet, d'arrêter cet homme et de le mettre hors d'état de nuire. C'est incompréhensible pour la population. Et encore une fois, quand on arrive à ce discrédit de l'État, il ne faut pas s'étonner par la suite que les gens aient envie de se faire justice eux-mêmes, parce qu'on est, on est quand même là-dedans. Donc, et après, il y a évidemment l'affaire des OQTF,
OQTF
qui ne sont absolument pas appliquée. Et encore une fois, c'est comme toutes les affaires, par exemple l'affaire Lola, ce type n'avait rien à faire sur notre sol, c'est bien une carence de l'État qui a provoqué finalement ce viol en n'intervenant pas. Donc moi, je trouve quand même qu'on est dans une société où l'État, où on a le sentiment que l'État ne nous protège plus.
Défaillant.
Et moi, ça m'inquiète beaucoup.
Mais il y a double problème de sécurité. Il y a la sécurité, effectivement, parce que cet homme n'avait rien à faire là.
Et de l'hôpital.
Et
puis,
il y a l'hôpital aussi.
Enfin, elle est hospitalisée. Elle se fait violer dans un box. Vous savez ce que c'est, les box individuels.
Ouais,
hein,
ouais,
c'est quand même pas non plus complètement isolé. Hein, à l'hôpital Cochin.
S'agissant de cette personne, j'ai pas d'état d'âme en fait. Hein. Un étranger en situation irrégulière qui commet des crimes sur le territoire français, je n'ai aucun état d'âme à dire qu'il doit être expulsé. J'ai aucun état d'âme par rapport à ça.
Mais du coup, expulsé
donc,
où
tout de suite, je le dis parce que Kevin me soupçonne toujours. Mais le problème, voilà, et on y arrive parce que je peux dire ça. Ouais. Je peux dire ça. Mais après, concrètement, on fait quoi de quelqu'un dont
droit,
on connaît, voilà, parce que voilà, on est tous d'accord, quelqu'un qui est très dangereux, qui est étranger, qui est en situation irrégulière, doit être expulsé vers son pays d'origine. Et c'est là que tu tombes sur le vrai problème. Mmh. Qui est cet homme-là?
Mmh. Si
on a 12 alias, ça veut dire qu'on ne connaît pas son identité réelle, on ne connaît pas son pays d'origine, effectivement, parce qu'il se dit jordanien, il est fort probable qu'il ne le soit pas.
Exactement.
Parce que les trois quarts, alors je vais vous dire, alors le pire, c'est ceux qui se revendiquent comme palestiniens les trois quarts du temps, parce que la Palestine, on ne sait pas vers où les renvoyer, etc. Donc en réalité, il est fort probable qu'il ne soit pas jordanien. Maintenant, de quelle nationalité est-il? Quel est son nom? Parce que pour que son pays d'origine, si on arrive à le trouver, le prenne, il faut qu'on ait une identité. Donc, on a en fait cet angle mort qui fait que on pourra dire tout ce qu'on veut.
C'est ça.
On aura toujours des gens comme ça. Donc, la vraie question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va faire de lui?
Tu ne peux même pas le placer en centre de rétention?
Aujourd'hui, au stade où il en est, si vraiment il a commis ces faits-là, c'est même plus de la rétention. De toute façon, ça sera la détention provisoire pour être jugé derrière, parce qu'on est quand même, avec un viol qui a été commis. Enfin, je veux dire, il a
Et préméditation, visiblement.
On est sur un crime avec, en plus,
il a monté tout un tracteur, en fait.
Si vraiment ça s'est passé comme ça, c'est quelque chose aujourd'hui il est toujours présumé innocent, mais quand même on est
était sous l'emprise de la cocaïne et du cannabis aussi
en plus, donc il y a effectivement ce point de vue là où malheureusement je vous dis on aura beau être tous d'accord sur le fait qu'il ne peut pas rester sur le territoire, on va avoir du mal à l'expulser si on ne sait pas
donc de quel pays il
est. Donc c'est la première chose, et la deuxième c'est que on est aussi face au manque criant de personnel dans les hôpitaux, parce que en réalité, auparavant, je dis pas qu'il faut mettre des agents de sécurité dans les hôpitaux, j'espère qu'on va pas en arriver là, mais auparavant, il y avait tellement de gens autour, il y a des soignants qui passent, etc., que ça pouvait pas arriver. Aujourd'hui, on te laisse dans un box, et d'ailleurs, on le voit, des personnes qui meurent, parce que ça fait des heures et des heures qu'ils sont là, et que personne s'est rendu compte qu'ils étaient en train de mourir. Donc, il y a aussi un manque criant sur les hôpitaux. Donc, il y a un deuxième problème qui est un problème, on va dire, secondaire, parce que c'est pas ça qui a
censé quand même avoir un agent de sécurité à l'hôpital.
Oui, mais il peut
en
pas surveiller.
En tout cas, normalement, c'est la surveillance de tous les gens qui sont là. Tu peux
l'agent
pas
de sécurité,
arriver.
Il est à l'entrée. Voilà. Il n'est pas dans les boxes, etc. Moi, je me suis fait opérer. J'ai été opérée début octobre. Je rentre. C'est une chirurgie ambulatoire. Je rentre et je sors du bloc. Je m'habille pour partir. Il y a un gars. Ça faisait 4 heures qu'il était là. Ils l'ont oublié. Il n'était pas passé au bloc encore. Quoi, tu vois? C'est-à-dire qu'il y a tellement de patients et effectivement tellement peu de personnel soignant.
Attends, si on se fait
violer
à l'hôpital, si on se fait violer maintenant à l'hôpital,
non, mais je cautionne,
qui est censé être un peu un sanctuaire quand même.
On ne cautionne ni Marianne ni moi,
Moi, je veux bien qu'on trouve toujours des explications. Il y a trop de monde, pas assez de personnel. Enfin, toujours des bonnes. Des bons arguments pour rien faire. Là, il y a trop de monde. Alors, il a 13 nationalités. On peut pas prendre le temps quand on l'arrête d'essayer de remonter le fil et de savoir d'où il vient.
Mais lui, il faut l'exploser. Il y a aucun de nous trois qui t'a pas dit.
Non, on est tous d'accord.
On t'a dit explose-le, renvoie-le chez lui.
Vous comprenez, il n'y a plus de moyens.
Oui, mais ça c'est autre chose, c'est un autre problème.
C'est deux choses différentes.
Mais arrête, c'est pas ce que j'ai dit.
Moi j'ai
dit qu'il y avait deux choses différentes. J'ai dit la première, cet homme-là, il faut qu'on donne sa nationalité et qu'on
l'expulse. Il donne les moyens. Oui, mais on l'a jamais fait.
Mais pourquoi on l'a jamais fait?
Vous comprenez, il avait 13 nationalités, donc on peut pas faire le QTF parce qu'on sait pas d'où il vient. Et donc on règle pas le problème et le type est dans la nature.
Oui, mais c'est deux problèmes différents.
Mais oui, aujourd'hui il va falloir le faire, mais ça a été aggravé, et je dis pas que c'est la cause principale, mais ça a été aggravé par le fait que dans les hôpitaux, il n'y a plus personne. Voilà. Et c'est tout.
Une infirmière par étage, elle peut pas être au fond.
Kevin Bossuet, Kevin.
Non, mais je crois qu'il faut arrêter avec cette culture de l'excuse, essayer toujours de trouver des explications pour expliquer ce qui n'est pas tolérable. La vérité, il y a sans doute un manque de personnel. La vérité, c'est qu'on accepte la violence. On a accepté que dans l'enceinte d'un hôpital, on pourrait éventuellement être victime d'un vol ou être victime d'une agression. Si vous, il y a de plus en plus, même dans les hôpitaux, il y a une croissance notamment du nombre de vols dans les chambres. Il y a également de plus en plus de gens qui se font agresser. Moi, je suis allé une fois aux urgences de l'hôpital Bichat. Croyez-moi, j'étais pas rassuré entre les alcooliques qui étaient d'un côté, les autres. Oui. C'était une vraie cour des miracles. On ne se sent pas en sécurité. Et il y a la question aussi du consentement à l'impôt. On paye quand même beaucoup, beaucoup d'impôts pour un service public qui n'est pas à la hauteur. Mais quand je vais à l'hôpital, j'ai envie de me sentir en sécurité. Mais c'est quand même la moindre chose.
On dit tous la même chose.
Bah oui, Marianne, on cherche toujours des excuses.
Mais pas
il
n'y
a pas de moyens. Simplement,
cette personne qui a 13 usurpations d'identité.
C'est ça le problème.
Même ça, c'est pas suffisant pour être incarcéré, notamment.
Ah, non, mais tout ça est suffisant pour être incarcéré, mais de toute façon, il va sortir.
Avec les 13 usurpations d'identité.
Ah non, mais en fait, manifestement, s'il a usurpé 13 fois, c'est aussi ce que j'ai cru comprendre. Hein, j'ai pas tout son casier judiciaire, mais il a déjà été incarcéré. C'est ce que j'en ai compris.
Il a été arrêté plusieurs fois pour vol, recel, usage de drogue. Donc, mais alors, c'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il fait dans la nature?
Eh ben, ce qu'il fait dans la nature, c'est ce que je vous explique depuis tout à l'heure, c'est que personne ne peut faire de miracle si tu ne sais pas qui est une. Parce que là, par exemple, en France, pour avoir des papiers d'identité, tu donnes tes empreintes. Donc, effectivement, si quelqu'un demandait à la France, peut-être qu'on me trouverait et qu'on dirait, bon, ben, cette personne est française. Mais c'est pas tous les pays comme ça. En fait, comment tu le trouves, la personne?
Donc, je t'écoute. Tu arrives en France clandestinement, tu dis, tu donnes des nationalités différentes et tu t'en sors.
Sincèrement,
ta réponse n'est pas satisfaisante.
Non,
il suffit de dire un coup je suis jordanien, un coup je suis tunisien.
Je ne suis pas le ministère de l'Intérieur. Deux, le problème est peut-être.
J'espère que les policiers sont quand même plus.
Deux, le problème est peut-être que cette personne ait pu rentrer clandestinement sans qu'à aucun moment on ait pu vérifier son identité.
Sauf que ce n'est plus un délit d'être clandestin.
Donc, le fait.
Oui, mais ça l'a été que très peu de temps.
Parce que moi, je voulais les comprendre, puisque déjà, il a des faits de violence, plus la consommation de stupéfiants, même si ça, c'est pas
en 2020, il a été suspecté
d'avoir une usurpation d'identité. Je me demande simplement à quel moment, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas, simplement pour ces faits-là, à le garder derrière les barreaux?
Mais on peut, mais à un moment, tu dois le relâcher. Parce que normalement, le but, c'est de le renvoyer, c'est de l'expulser.
Eh ben, tu ne dois pas le relâcher. Mais dans ce cas, tu ne le relâches pas.
Mais tu le relâches pas, tu peux pas non plus, c'est complètement arbitraire. Tu peux pas garder quelqu'un de 250 ans en prison sous prétexte que tu sais pas où il va.
Il est pas là non plus 10 ans. En 3 ans, il s'est quand même manifesté.
Il y a une durée maximum sur la rétention administrative.
En 3 ans, sur notre territoire, il a été suspecté de viol. Alors, classement sans suite, il faudrait savoir pourquoi on a classé sans suite, parce que visiblement, il y a des petits soucis de prélation sexuelle, cet homme. Il a été arrêté plusieurs fois, on nous dit-on, pour vol, recel, usage de drogue. C'est procureur de mots. Donc, en 3 ans, plusieurs fois arrêté pour vol, recel, une fois accusé de viol, et le mec est dans la nature. Oui, parce que vous comprenez, il a plusieurs nationalités. Sincèrement,
il n'a pas plusieurs nationalités, il a des alias. Ce qu'il faudrait, effectivement, c'est trouver un moyen, mais moi, je ne suis pas informaticienne.
Les alias, c'est donc des faux papiers, alors.
Non, les alias, en fait, c'est des identités différentes. Avoir un alias, ça veut dire aujourd'hui, je vais dire que je m'appelle Marianne Soubré, demain, je dirai je m'appelle Marianne Marshall.
Déclaration verbale.
Oui,
en fait,
absolument.
C'est ça. Et derrière, on n'arrive pas à prouver.
Ça a été consigné pendant
13 fois.
Nom que tu donnes au moment où tu te fais arrêter. Puis en plus, quand tu te fais arrêter, tu donnes le nom de ton père, le nom de ta mère. Et des fois, il y a des alias aussi parce que tu as changé le nom de ton père ou le nom de ta mère.
C'est facile de déjouer la justice. Voilà, en fait, c'est ça que ce résultat.
Sauf si on te connaît déjà et sauf si on t'a trouvé en possession de documents de
la vraie question, c'est a-t-on les moyens d'identifier ce type de personne? C'est ça la question. Et ça, c'est pas le travail de Marianne,
c'est
le ministère
de
l'Intérieur. Les deux, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, dans l'état des faits, parce que pour moi, être clandestin, c'est pas un délit. Quand tu viens ici pour te soigner ou pour travailler, t'as pas de papier, mais souvent, et on en a beaucoup de témoignages ici, c'est déjà exactement. Après, quand tu es violent comme ça, tu es un délinquant sexuel, que tu fais du mal, effectivement, on doit se débattre. Il y a deux problèmes.
Il y avait deux OQTF, parce que
même si je pense que même s'il était identifié en termes de pays d'identité, le problème, c'est que souvent les pays ne les reprennent pas. Et pourquoi les pays ne le reprennent pas? Donc c'est le problème de Darmanin aujourd'hui.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a quand même deux UQTF qui ont été délivrés. Donc
oui, on avait bien sous ses alias, non.
Donc on avait bien identifié au moins deux nationalités.
Non, mais sont... non, c'est sous le nom qu'il a donné. C'est sous
bien la discussion, la discussion est lancée avec les GG, avec les grandes gueules. Dans un instant, Jonathan, il est du côté de l'Hérault, il est maçon, il sera avec nous. Au 32-16, rien ne va dans cette histoire que l'on vous raconte. Cette femme qui a été violée aux urgences par un sans-papier qui avait 13 alias sous le coup de deux OQTF. Visiblement, on ne savait pas quoi en faire. L'État, là. Est-ce que c'est la responsabilité de l'État qui est engagée? 32-16 pour Omar. Le grand gueule.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, Marianne Soubry, Kaouter Ben Mohamed et Kevin Bossuet. Voilà nos trois GG. On parle de cette femme qui a été violée aux urgences de l'hôpital Cochin. On en parle avec Jonathan qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Jonathan.
Ah oui, bonjour.
Ouais, c'est vrai que dans cette histoire, pardon pour cette expression qu'on a employée plusieurs fois, on se dit mais rien ne va, quoi, rien ne fonctionne. Est-ce que c'est l'État qui est en partie responsable, Jonathan?
Oui, pour moi, oui, à 100%, c'est l'État qui est responsable, parce qu'il n'y a rien qui est fait. Il faut se dire que depuis, ça fait un moment qu'on entend parler aux informations de tous ces faits divers, avec des gens qui ont des OQTF, qui ne sont pas partis du territoire, qui tuent des gens. Par exemple, le viol de la fille qui avait un OQTF, qui a tué la petite fille et tout, mais je ne comprends pas. Ils attendent de quoi quand ils les arrêtent? Pourquoi ils ne les prennent pas? Ils ne les mènent pas dans leur pays? Moi, je veux savoir pourquoi ils font pas ça. Pourquoi ils prennent pas la main dans leur pays? Le monsieur, là, il s'est arrêté pour drogue, pour viol. Là, il rentre dans un hôpital. Il fait semblant qu'il est machin. Moi, je comprends pas.
Parce qu'à chaque fois, c'est des raisons différentes. Alors là, on nous explique que c'était compliqué parce qu'il avait des identités différentes à chaque fois. Dans le cas de la meurtrière présumée de la jeune Lola, c'est parce que l'Algérie n'en veut pas, parce qu'il faut, l'accord du pays.
Laissez passer consulaire. C'est ça.
Pas normal, ça, par contre. Quand on sait qui c'est pas normal, tu vois, je comprends pas pourquoi. Excusez-moi. On est d'accord avec vous.
Même s'ils veulent pas, on leur donne. Même s'ils veulent pas, on leur donne. Voilà. Ouais. Même s'ils leur veulent pas, qu'est-ce qu'on va faire ici en France avec eux? Ils vont ressortir, ils vont refaire la même chose encore une fois. Vous avez vu, il a fait plein de fois.
Oui, il y a des chances qui recommencent.
Il ressort, il recommence.
Non mais là, je suis d'accord avec vous que des gens qui sont dangereux n'ont rien à faire sur le territoire. Mais là, s'agissant de cette affaire-là, la dernière,
précisément,
j'ai quand même le sentiment que, en fait, on ne sait pas qui c'est.
C'est ça.
Donc, ne pas savoir qui c'est fait qu'on n'a aucun pays en fait vers lequel le renvoyer, puisqu'on ne sait même pas de quelle nationalité il est. Oui, non, mais j'entends bien.
Jonathan.
Donc en fait, puisqu'on ne sait pas qui c'est, eh ben on le garde en France et on le laisse en liberté et jusqu'à qu'il commette des crimes et on laisse ça faire l'État.
Mais Jonathan, je vous pose la question, on l'envoie où, dans quel pays?
Est-ce qu'on ne sait pas qui c'est?
Moi je veux vous dire, moi aussi, mais vous savez que moi mes grands-parents ils viennent d'Algérie, on est des immigrés, on vient ici en France,
vous savez d'où vous venez?
Mais oui, c'est d'où je viens.
On ne sait pas d'où il vient.
Alors, on peut peut-être se donner les moyens de trouver.
Je serai la première à le prendre un coup de pied aux fesses pour le renvoyer d'où il vient. Mais oui, on ne sait pas d'ici, en fait.
Si vous voulez, en fait, la dernière, par exemple, le dernier pays où c'est qu'il y a marqué sur son passeport ou sur ses papiers.
Mais il n'a rien. C'est des déclarations verbales. Il n'y a aucun papier d'identité. Voilà. Donc, on n'arrive pas à l'identifier.
C'est un SDF. On le dit.
Oui, mais c'est ça. Mais comment il vit depuis tout ce temps?
C'est un SDF. Alors je vous explique, de ce que j'en ai compris, c'est un SDF dont nous on peut retracer, la police peut retracer qu'il a commis des délits parce qu'il y a ses empreintes, mais à chaque fois il a donné un nom différent, ce qu'on appelle un alias, c'est-à-dire un jour il dira bonjour je suis Jean Dupont et avec les empreintes suivantes il dira
je suis Kevin Bossuet,
le troisième jour il dira je suis Olivier Truchot et voilà, et donc en réalité...
Pardon mais son visage on l'a, on peut pas faire circuler un appel dans les pays africain ou maghrébin, puisque
c'est pas de lui dire moi. Tu sais, il a dit qu'il était jordanien.
Quand on les a, excusez-moi, on est tout d'accord sur
déjà,
ça, même si voilà. Non mais non, parce que jamais on va te donner.
Manifestement, non, visiblement, il est pas suédois. Non
mais s'il dit que les Jordaniens, on peut faire à Jordanie, on peut faire les pays.
Ils ont demandé déjà.
Et on prend les 13 identités, on envoie son visage aux ambassades. Je sais pas, on fait une enquête quoi.
On peut essayer d'être efficace. C'est pas qu'on l'a pas fait. C'est qu'en fait, en général, quand tu donnes pas ton identité, que tu donnes des alias, que tu brûles ton passeport ou que tu le laisses ailleurs, tu vois. Donc tu vas pas dire que tu viens d'Algérie si tu es algérien, tu vas pas dire que tu viens de Jordanie si tu es jordanien.
C'est ça.
D'accord, mais comme il a été arrêté.
Oui, mais donc je termine. Donc déjà, quand on sait qui ils sont, qu'ils sont identifiés comme de tel pays, le pays ne veut pas le reprendre. Tu crois vraiment qu'avec une photo qui va circuler, on va retrouver l'identité du gars?
Allez-y,
les gens ne sont pas identifiés dans d'autres pays, comme ils sont identifiés chez nous.
Moi, je dis comme dit
Olivier.
Ouais, comme disait tout à l'heure, la dame qui est en train de parler là,
Marie-Anne Soubré ou Cauter.
Ouais, allez-y.
Cauter, Marseille en colère, voilà. Je l'adore. Franchement,
merci,
elle est la vérité, elle est toute naturelle et c'est vraiment. Mais de toute façon, même tous, hein.
Vous la connaissez pas bien.
Vous êtes vraiment au top. Voilà.
Il dit ça, mais il me garde.
Grâce à vous, toute la journée, je suis avec vous aux informations. Quand je bosse, machin et tout, je vous écoute toute la journée. J'arrête pas de vous écouter. J'adore ce que vous faites. Vous êtes juste incroyable. Et pour en finir, justement, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que d'avoir d'autres personnes à moi la vie derrière. Mais voilà, pour terminer, moi je trouve ça pas normal que des personnes comme ça qui sont ici, qu'on peut pas les renvoyer chez eux. J'arrive pas à comprendre.
Et pourquoi, moi j'ai une question, et pardon, mais Jonathan, je pense que c'est une question que vous vous posez. Je la pose à Marianne qui est notre avocate aujourd'hui. On a quand même délivré deux OQTF.
Oui.
Quand tu délivres une OQTF, il y a bien un pays.
Non. Ah oui, mais il y a un pays
mais
de l'alias.
Fausses identités.
En fait, je t'explique. Il y a deux façons d'avoir des OQTF.
La dernière remontée au mois de juillet dernier.
Je t'explique. Bon, Rachel Bensoussan.
Excuse-moi, je vais expliquer. Il y a deux façons d'avoir des OQTF. La première, c'est sur la meurtrière présumée de Lola. Elle a fait une demande de titre de séjour ou de renouvellement. Donc, on a son nom, son identité. Tout est vérifié. Et donc, on a fait une OQTF par voie postale. Elle avait 30 jours. Ça, c'est la première. C'est la personne s'est vérifiée, etc. Ces gens-là, on peut les renvoyer.
Et il y a. On l'a pas fait avec la.
Il y a l'OQTF que l'on prend dans le commissariat de police sur lequel tu as 48 heures pour faire un recours. Et celle-là, c'est la personne
la
dit
parole.
Je suis Monsieur X. Et à ce moment-là, on fait l'OQTF contre Monsieur X de telle nationalité par rapport à
et
sa déclaration.
Et on ne vérifie pas ses dires.
Et on peut pas vérifier s'il a rien sur lui.
C'est comme si moi, demain, je me fais arrêter et que je dis que je m'appelle que je suis suédoise et que je m'appelle Ingrid
Ichteke.
C'est là où je reviens à ma question. Et je sais que ça peut paraître être une mesure arbitraire, regard du droit et de la loi.
Oui.
Mais pourquoi ce genre de personne qui finalement est SDF, dont on ne sait pas quoi faire, potentiellement dangereux, si tu veux, on n'a pas un endroit pour les garder.
T'as des centres de rétention, mais ça dure 40 jours, et au bout de 40 jours, tu peux les libérer.
Peut-être qu'aujourd'hui, il faut prendre un délai plus long, tu vois, le temps de protéger la population et de mener toutes les enquêtes, puisque ils sont potentiellement dangereux pour la population et même pour lui-même d'ailleurs.
Alors j'ai eu des problèmes, des menaces et même une mise en demeure quand j'ai dit qu'il fallait rétablir le bagne Cayenne. Bon, laissons Cayenne de côté, rétablir un endroit qu'on appellerait un bagne ou pas un centre de rétention, mais peut-être c'est à dissuader aussi, hein, où tu les mets ad vitam aeternam jusqu'à ce qu'on sache ce qu'ils font pour les renvoyer.
Ad vitam, mais je sais pas, de 40 jours, tu passes à 70 ou 80.
Il y a des pays d'Europe où c'est 3 mois. La Grèce, il me semble que c'est 3 mois.
Passons à 3 mois, nous, à ce moment-là. Enfin, je sais pas.
Nous, on a augmenté déjà la durée, si tu veux.
40.
Et c'est un temps, justement, qui sert normalement à non seulement savoir de quelle nationalité est la personne, mais obtenir le fameux laissez-passer.
Oui, parce que
pourquoi ça sert à rien, Marianne?
Mais parce qu'il y a
des pays. Tu n'es pas du pays, tu commets des crimes, des délits. Pourquoi tu ne te jettes pas dans un coin?
Pardon, tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi a-t-on délivré deux OQTF puisqu'on n'avait aucun moyen, de vérifier ces dires? Finalement, on va le croire.
Mais c'est automatique et parce qu'on espérait quand même.
Automatique, d'accord.
On n'allait pas le laisser comme ça en disant bonjour, on ne sait pas qui vous êtes, on vous remet dehors.
On ne sait pas qui vous êtes, on vous garde et on va essayer de savoir qui vous êtes.
Oui, voilà, mais il y a quand même une tentative de faire quelque chose.
Gérald Darmanin ne peut pas nous dire, le ministre intérieur ne peut pas nous dire, on va être meilleur sur les OQTF, on va se donner les moyens.
On avait dit méchant avec les méchants.
On va être méchant avec les méchants.
Mais Olivier, il a dû aller.
On n'est pas méchant avec les méchants, on est gentil avec les méchants.
À la suite de ces deux OQTF, il a dû aller en centre de rétention. Je ne connais pas tout son parcours, mais je pense qu'il y allait.
Après, tu ressors.
Mais par contre, tu ressors au bout d'un moment si on ne trouve pas.
On s'est pas donné les moyens.
Kevin Bossuet, là,
qu'est-ce que c'est que ce pays au sein duquel on peut commettre n'importe quoi en toute impunité? C'est-à-dire que si vous êtes un délinquant, vous venez de l'étranger, vous arrivez sur notre sol, vous jetez votre passeport, vous racontez n'importe quoi, vous inventez un faux nom, de faux parents, et même pire, vous fumez un bédo avant de commettre le crime, et vous êtes être tranquille, mais ce n'est pas entendable. Et encore une fois, la justice est là pour protéger le peuple français. Quand on relâche des gens comme ça dans la nature, le peuple français n'est pas protégé. Donc pourquoi pas, en effet, créer des centres pour mettre ces personnes-là en attendant qu'ils soient, que ces personnes soient renvoyées dans leur pays d'origine. Voilà. On est d'accord.
Je remercie Jonathan d'avoir été avec nous. C'est Yanis qui veut intervenir. Il nous appelle de Gironde. Bonjour Yanis.
Bonjour.
Et vous, quelle est votre réaction? Parce que vous êtes un ancien policier d'ailleurs, Yanis.
Oui, en fait, ça. Donc, je suis un ancien policier, j'ai travaillé donc, dans les CRA, ce que vous racontiez. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les OQTF, c'est pas, comme j'ai pu entendre tout à l'heure, c'est pas les policiers qui donnent, c'est les préfectures qui les délivrent.
Ouais.
Voilà. Et même une fois que l'OQTF est donné, il faut avoir un laissez-passer donc, du c'est pays ça. Qui accueille, qui va récupérer donc, son ressortissant. Donc, déjà, c'est très compliqué à avoir. Puisqu'il y a certains pays qui, en fonction de ce qu'on fait, les individus ne veulent pas les récupérer non plus, hein, vous imaginez bien. Et derrière, donc, faut que nous, on le renvoie. Donc, après, ça peut encore poser problème quand on veut le renvoyer, parce que s'il lui veut pas, il peut refuser une première fois, on le ramène dans un centre. La deuxième fois seulement, il est renvoyé sous escorte. Et quand ils viennent et qu'ils n'ont aucun papier d'identité sur eux, notamment lors des immigrations illégales, forcément, ils vont venir sans leur passeport, sans rien du tout, en fait, c'est très compliqué de récupérer leur véritable identité, donc leur véritable origine. Et voilà. Légalement, on ne peut pas le renvoyer. Je ne sais pas, moi, par exemple, si c'est un ressortissant algérien, on n'a pas le droit de le renvoyer au Maroc, puisque le Maroc n'a pas récupéré quelqu'un qui ne vient pas de chez lui.
Oui, oui. Absolument.
Il est à préciser, excuse-moi Yanis, que dans les pays d'origine, moi, je vais parler de la Tunisie parce que c'est le seul pays que je connais, quand tu es pris en train de vouloir partir sans papier, comme ça, on appelle ça hadaga, c'est un nom.
Ou
quand tu veux quitter la Tunisie de manière clandestine, ou tu es pris, même si tu es parent et que tu es au courant que ton enfant va partir, que tu es considéré donc comme complice, tu rentres tout de suite en prison. Pour eux, c'est extrêmement puni par la loi. Je crois que tu fais 2 ou 3 ans
c'est
d'office.
C'est plus fini en Tunisie qu'en France.
Non, mais je suis sérieuse. Si tu as un projet, que tu es pris en flag et qu'on identifie les passeurs ou quelqu'un qui est au courant que tu veux quitter le territoire, tu vas en prison d'office. Donc c'est pour ça que je comprends pas.
Parce qu'en France, ce n'est pas un délit.
Alors moi, je sais qu'en France, enfin nous, en tout cas dans les CRA, là où j'ai travaillé, on a reçu la même personne.
Centre de rétention administrative, je le dis.
On a reçu la même personne 2 ou 3 fois avec 3 identités différentes.
Voilà.
Le problème, c'est qu'à chaque fois, on ne sait rien de lui.
C'est ça.
Il fait que, il reste. Alors aujourd'hui, c'est 90 jours en France aussi. Hein. Ça a changé là il y a 2-3 ans. Donc c'est 90 jours aussi le temps maximum. Mais par contre, voilà, en fait, le problème, c'est qu'on...
Mais Yanis, alors, dans ce cas-là, le bon filon, je suis étranger, j'arrive en France, je commets des délits, je déchire mon passeport, je raconte n'importe quoi à la police et je suis peinard.
Moi, Yanis, j'ai une question pour vous qui êtes
Yanis,
sur le front.
Je voulais savoir une chose, parce que comme vous avez travaillé dans ces centres de rétention administratifs, les personnes qui sont dans les centres de rétention, est-ce qu'elles rentrent, elles sortent toute la journée, elles vont et viennent, comment ça se passe?
C'est une rétention, donc c'est pas de la détention, donc c'est-à-dire qu'ils sont dans un centre. Ils font ce qu'ils veulent dans le centre. Par contre, ils ne peuvent pas sortir du centre.
D'accord.
En revanche, à l'intérieur du centre, ils ont le droit, contrairement à la prison, ils ont le droit au téléphone. Ils ont le droit aux visites toute la journée.
D'accord.
Il y a vraiment tout. Ils font ce qu'ils veulent.
Mais est-ce
que vous avez les moyens pendant ces 90 jours? Parce qu'en fait, ça sert à rien de retenir la personne 90 jours s'il se passe rien pendant 90 jours. L'intérêt, c'est de retenir la personne et de pouvoir statuer précisément pendant ces 90 jours et lui donner une réponse. Soit vous avez le droit de rester ou pas de rester. Est-ce que on se donne les moyens d'apporter une réponse? Voilà, avoir une obligation de résultat.
Alors, on se donne les moyens. Après, c'est ce que j'ai. Le problème, c'est qu'il y a des fois, c'est très compliqué. Quand la personne vient 3-4 fois, qu'elle a 3-4 identités différentes, c'est très compliqué de voir. Donc après, il y a toujours...
Et la reconnaissance faciale?
Moi, j'ai une question pour vous, Yanis, après.
Le problème de la reconnaissance faciale, c'est que si la personne est partie de son pays à 15 ans, aujourd'hui, elle en a 25-30, en fait, alors déjà, il faudrait que...
Lui, ça faisait 3 ans.
Déjà, il faudrait qu'on l'ait vu en partant de son pays, qu'il y ait une reconnaissance faciale quand elle est partie de son pays.
Moi, j'ai une question, si vous plaît, à Marianne. Vous, parce que vous êtes le mieux placé de nous tous, en fait, parce que ça a été votre métier, est-ce qu'il y a une proposition de solution de vous qui êtes confronté à ça? Parce que... Non, mais c'est vrai, parce qu'on ne sait pas. C'est vous qui savez,
Alors,
en fait.
Yanis.
Moi, pour moi, il n'y en a pas, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'on devrait vous écouter à vous.
Yanis.
Aujourd'hui, nous, quand on travaille, c'est très compliqué. Alors, quand on essaie de discuter avec eux, des fois, quand il y a un climat de confiance, on arrive à savoir. Ils vont nous dire que ce n'est pas leur identité, ils vont nous dire ce genre de choses. Le problème, c'est que ça reste du verbal, en fait. Donc, même si quand nous, on le remonte, c'est les mêmes recherches derrière qui doivent être engagées. Des fois, ça n'empêche que c'est très long quand même. Donc, et bien évidemment, c'est une très petite minorité qui nous font confiance, avec lesquelles on va arriver à, à obtenir quelque chose. Donc ça reste très compliqué.
Donc il n'y a pas de solution. Alors, juste une petite précision. Les étrangers qui demandent par contre un titre de séjour, automatiquement on prend leurs empreintes. Donc là, ceux qui sont concernés dans la situation que décrit Yanis ou de la situation de ce SDF, c'est des personnes qui n'ont jamais fait de démarche pour être régularisées.
Merci Yanis de ce témoignage. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. Yanis, donc ancien policier qui travaillait dans les centres de rétention administrative. Violé aux urgences par un sans-papier à Cochin. Est-ce que l'État, vous considérez que l'État est responsable?
Avec l'hôpital Cochin aussi, s'explique.
Dans cette affaire, c'est un oui à 88% pour ceux d'entre vous qui nous ont suivis, qui ont été écoutés et qui ont voté sur Twitter.